Si les travailleurs et les classes populaires payent durement la crise, la bourgeoisie, elle, a continué à prospérer. L'Algérie de Bouteflika, avec sa rente pétrolière de 1 000 milliards de dollars en 15 ans, a été un coffre-fort à ciel ouvert où les privilégiés se sont allègrement servis, concédant quelques miettes aux classes populaires. L'État a été la vache à lait du patronat algérien et des multinationales. Au premier rang de ces multinationales, on trouve les compagnies pétrolières comme Total ou Shell, qui ont aujourd'hui des vues sur les immenses gisements de gaz de schiste. Des forages ont recommencé malgré leur arrêt en 2017 suite à la mobilisation des habitants des oasis, des éleveurs et des exploitants de palmeraies qui craignent la pollution d'une des plus grandes nappes souterraines au monde. C'est le carburant bon marché qui a fait de l'Algérie un des principaux marchés automobiles du continent africain. Tous les grands groupes comme Nissan, Renault, Hyundai ont pu s'y implanter à condition de faire du montage sur place. Au nom de la création d'emplois industriels, toutes sortes d'avantages leur ont été attribués. Les grands groupes en ont profité, mais aussi leurs relais locaux. Ainsi, Rachid Tarkout, qui est devenu, grâce à ses relations avec Bouteflika, l'intermédiaire incontournable de Hyundai en Algérie, faisait venir des voitures complètement montées et en fait de montage sur place, il ne restait plus qu'à rajouter les roues. Tarkout se moque du montage automobile et des emplois industriels. Seul comptait le montant des commissions qui allaient dans sa poche. Avec une rente pétrolière qui battait des records, les importations ont explosé. Mais il est impossible d'avoir accès au circuit d'importation sans arroser des hommes haut placés. Pour financer les pots de vin et s'assurer des marges conséquentes, les intermédiaires pratiquent une surfacturation de l'ordre de 10 à 20% du coût des marchandises. On estime que chaque année, plus de 2 milliards de commissions quittent le pays pour aller dans des comptes en banque en Suisse. Cela correspond à la construction de 4 grands hôpitaux modernes. Des fortunes colossales se sont édifiées dans l'import-export, ou plutôt dans l'import-import, comme le disent avec humour les Algériens, car si les conteneurs arrivent pleins, ils repartent souvent vides. Ali Haddad, l'ex-patron des patrons, classé dans le top 5 des personnalités les plus riches d'Algérie, a fait fortune grâce aux liens personnels qu'il entretenait avec Bouteflika. Il a obtenu des marchés publics, celui de la construction des routes et de lignes de chemin de fer, celui de la distribution des véhicules Toyota. Il possède plusieurs quotidiens ainsi que des chaînes de télévision. Même le milliardaire Issad Rebrab, patron du groupe Cevital, autrefois professeur de comptabilité, ne serait pas devenu la première fortune d'Algérie sans les monopoles que ses amis au pouvoir lui ont attribués sur les importations de produits de grande consommation, le rond à béton, le sucre et l'huile. Et grâce à cela, il a pu étendre ses activités dans d'autres secteurs et dans le monde entier. Une bourgeoisie plus nombreuse, plus riche, a émergé en Algérie, qui doit son enrichissement à sa position d'intermédiaire dans le commerce avec les puissances impérialistes et aux liens entretenus avec des ministres, des hauts fonctionnaires et des officiers de haut rang. Cet enrichissement rapide s'est accompagné de nombreux scandales de corruption qui ont éclaté à la faveur de règlements de comptes entre clans rivaux. Aussi, un des slogans les plus repris des manifestants est « Vous avez volé le pays, bande de voleurs ». Parmi eux, le scandale de la construction de l'autoroute Est-Ouest qui relie Oran à Constantine figure en bonne position. Ce projet d'un montant initial de 4 milliards de dollars a coûté au final 18 milliards. De multiples intermédiaires ont été arrosés et l'islamiste Amar Roul, membre du MSP et ministre des Travaux publics puis des Transports de 2002 à 2013, est accusé d'avoir empoché un quart des pots de vin. En tant qu'ancien ministre de l'Énergie et l'ex-président de la Sonatrach, Chakib Khelil avait son mot à dire sur toutes les transactions conclues avec les grandes compagnies internationales. Selon les Panama Papers, il aurait détourné 1,5 milliard de dollars. Et le mandat d'arrêt international émis contre lui en 2014 a été annulé pour vice de forme. Le juge qui avait instruit l'affaire a été muté et le procureur général limogé. L'impunité dont bénéficiaient tous ces hommes n'a fait que rajouter l'écœurement à la révolte. Mais le patronat n'en a jamais assez. Ses profits, il les réalise avant tout sur l'exploitation des travailleurs. Il prêche l'austérité et la fermeté face à des travailleurs qu'il traite de fainéants et de parasites et qu'il accuse de mettre l'économie en péril. Il convoite l'argent que l'État consacre aux dépenses sociales, à la santé, aux retraites. Il voudrait que l'État revienne sur la gratuité en matière d'éducation et que cessent les subventions aux produits de première nécessité, comme le pain, la farine, l'huile, ou encore la construction et la distribution de logements sociaux. Les patrons ont baptisé avec haine, prime à l'émeute, toutes ces concessions faites sous la pression des classes populaires. La loi de finances 2018 s'est attaquée aux retraites des travailleurs. Une mobilisation des travailleurs du secteur public avait contraint le gouvernement à reporter son application. Dans celle de 2019, était annoncée une démolition du Code du travail, pourtant si peu respecté par les patrons. Le gouvernement attendait avril 2019 et la réélection de Bouteflika pour en révéler le contenu et passer à l'offensive. C'est dans ce contexte qu'est intervenue l'annonce de la candidature de Bouteflika à un cinquième mandat. Cette candidature a fait l'unanimité contre elle. Dans des cortèges impressionnants, réunissant des millions de personnes, ce cinquième mandat, a réussi à fédérer toutes les générations, toutes les catégories sociales, dans toutes les régions du pays. Le pacifisme des manifestations, l'ambiance fraternelle qui y régnait, les consignes d'appel au civisme des manifestants, relayées et respectées par tous, ont été pour beaucoup dans le succès des manifestations. Les femmes qui ont rejoint massivement le mouvement le vendredi 8 mars, journée internationale de la femme, ont été d'un renfort inestimable. Mais par la suite, la présence de cortèges féministes où étaient brandies des pancartes contre le code de la famille et pour l'égalité des droits ont suscité bien des discussions. Certains les ont prises à partie et leur ont dit « Ce n'est pas le moment, vous divisez le mouvement. Il faut d'abord dégager le système, les femmes, on verra plus tard. » Mais elles ne se sont pas laissées faire. Les cortèges féministes se sont imposés dans les manifestations. Les femmes occupent une place grandissante dans l'espace public, dont elles avaient été chassées durant la décennie noire. Si aujourd'hui, seules 20% d'entre elles ont un travail, les plus jeunes qui aspirent à plus d'indépendance ont massivement investi les universités. Et elles ont été très nombreuses à contribuer au dynamisme des manifestations étudiantes du mardi. Mais les femmes les plus conscientes savent qu'elles doivent rester vigilantes face à un conservatisme qui n'a toujours pas disparu à leur égard. Aussi, face à tous ceux qui veulent les faire taire, on ne peut que saluer leur courage et leur apporter tout notre soutien. Car en Algérie comme ailleurs, il n'y aura pas d'émancipation sans émancipation de la femme. Alors, toutes les colères enfouies jusque-là sont ressorties. Celles des personnes handicapées livrées à elles-mêmes, celles des défenseurs d'un oiseau, un grand oiseau qui s'appelle l'outarde, qui est une espèce protégée, que les princes du Golfe venaient chasser l'hiver sous la protection de Bouteflika. Ce sont aussi la colère des architectes qui se retrouvent au chômage avec l'arrêt des grands chantiers, celle des chercheurs, des employés communaux, des pompiers, des étudiants, des enseignants, des retraités de l'armée, maltraités par le pouvoir, celle des avocats, des huissiers, des agriculteurs et des ouvriers agricoles, celle des familles des victimes de la guerre civile qui veulent que les Bourreau soit enfin jugé. Chaque jour, durant les mois de mars à avril, à Alger, la place de la Grande Poste, lieu de rendez-vous de toutes les colères, n'a pas désempli. Toutes, dans ces manifestations, tous les hommes du système étaient conspués, les plus détestés étant le frère du président, Saïd Bouteflika, et Ouri Yahya, alors Premier ministre. Celui-ci a bien tenté de dissuader les manifestants en brandissant la menace de la guerre civile. « Ah, on offre des roses aux policiers, c'est beau !» Mais vous savez, en Syrie, aussi ça a commencé avec les roses. Et les manifestants lui ont répondu « pacifique !» signifiant que la violence n'était pas de leur côté. Haddad, le patron des patrons, les partis au pouvoir, le FLN et le RN2, eux aussi ont été conspués. Tous les leaders des partis dits d'opposition, des islamistes aux démocrates, se sont fait éjecter des manifestations. Ils se sont tous discrédités par leur soutien direct ou indirect à Bouteflika. Méfiants et distants du mouvement à son déclenchement, ils ont tenté de reprendre le train en marche. Même Louisa Hanoun, la secrétaire du Parti des travailleurs, s'est fait éjecter. Elle a été huée et conspuée, car considérée comme étant du côté du pouvoir. De nombreuses pancartes et slogans visaient aussi Sidi Saïd, le dirigeant UGTA, détesté des travailleurs pour le soutien total qu'il a apporté au régime. L'an dernier, par exemple, lors d'une grève qui s'est généralisée dans l'éducation, suite à la décision de la ministre de radier 22 000 enseignants, il les avait accusés de vouloir déstabiliser le pays. Malgré des syndicats corrompus, une mobilisation a touché les entreprises. Il n'est pas ça facile de savoir ce qui s'y est passé et ce qui s'y passe, car la presse en a très peu parlé. Les journalistes eux-mêmes mobilisés contre la censure étaient souvent plus prompts à couvrir les rassemblements d'avocats qu'à rendre compte des grèves d'ouvrières du textile ou d'ouvriers du pétrole. Ce qui est sûr, c'est que les travailleurs ont participé massivement aux marches du vendredi, comme ils ont contribué en mars et avril au succès des grèves générales répétées dans le secteur public lancées sur les réseaux sociaux. À des degrés divers, enseignants, postiers, employés du gaz, travailleurs des ports, employés des diverses administrations ont répondu à un moment ou à un autre à ces appels et à ceux plus ponctuels des syndicats corporatistes. Certaines villes, surtout en province comme Béjaïa ou Bouira, ont été traversées par des cortèges massifs de travailleurs contre le cinquième mandat. Dans la grande zone industrielle de Rouiba, à l'est d'Alger, les travailleurs de la SNV ont réussi à faire débrayer de nombreuses autres entreprises de la zone, y compris du privé, comme Pepsi-Cola, Coca ou Lu. Une fronde exigeant le départ de Sidi Saïd, le dirigeant de l'UGTA, a touché des unions locales et donné lieu à des protestations. Tout en étant convaincu que la priorité était de dégager le système, bien des travailleurs ont été encouragés par le mouvement à poser leurs propres revendications. Localement, des grèves ont éclaté pour des augmentations de salaire, contre des sanctions, pour la permanisation des emplois, c'est-à-dire l'embauche à temps à durée indéterminée. Elles ont visé aussi des directions autoritaires dont ils subissent le mépris quotidien et que les travailleurs considèrent comme la base du système. Des grèves, des rassemblements ont été organisés dans un certain nombre d'entreprises pour dégager les bureaucrates locaux de l'UGTA et exiger le renouvellement des comités d'entreprise, des comités de participation, pardon, c'est la même chose, ou des sections syndicales soumises au directeur. Dans certains endroits, des grèves ont duré parfois plusieurs semaines, comme ce fut le cas à Sonelgaz, ou celle des travailleurs de Tosiali à Oran, où les 4000 travailleurs ont, entre autres, obtenu l'embauche des contractuels. L'an dernier, une grève des 5000 travailleurs de GTP, c'est les grands travaux pétroliers, des sites pétroliers de Hassim Essaoud et Hassir Mel, avait été très vite empêchée suite à une intervention de l'armée. Mais dans le contexte du mouvement populaire, leur grève du printemps pour des hausses de salaire, l'embauche des contractuels, a duré plus de 3 mois. La décision de la direction de fermer les bases de vie, les privant d'accès à la cantine, a provoqué un élan de solidarité de la population locale qui les a pris en charge. La direction a dû rouvrir les bases de vie et céder à leurs revendications. En tout cas, à partir du 10 mars, les appels à la grève générale et à la désobéissance civile lancés sur les réseaux sociaux ont été largement suivis. Les rideaux des commerçants sont restés baissés, les transporteurs ont suivi le mouvement, les trains sont restés à l'arrêt. Les rues de nombreuses localités de quartiers et des localités et quartiers populaires ont été sillonnées par des cortèges de lycéens et même de collégiens qui reprenaient les mêmes slogans que leurs parents. Dans toutes les universités, des assemblées générales massives d'étudiants appelaient à rejoindre le mouvement. Le lendemain, le 11 mars, Bouteflika renonçait à un cinquième mandat et annonçait le report des élections. Les manifestants, toujours plus nombreux, refusaient en bloc ce qui revenait à un prolongement du quatrième mandat. Le Premier ministre était remplacé par Bédoui ou Yahya. Et les manifestants ont répondu: tu prolonges le mandat, on prolonge le combat. Le 26 mars, pour trouver une issue à la crise politique, Gaït Salah, le chef d'état-major de l'armée, bras droit de Bouteflika pendant 15 ans, lui retira son soutien. Il proposait d'activer l'article 102 de la Constitution permettant la destitution du président en cas d'empêchement. S'était déclaré Bouteflika inapte 6 ans après qu'un AVC l'ait rendu incapable de parler. La manœuvre était dénoncée massivement par des millions d'Algériens dans les manifestations le 29 mars. Le 2 avril, Bouteflika présentait sa démission. C'était trop tard. Elle apparaissait comme une manœuvre de plus afin de préserver le système. Qu'ils partent tous est devenu le slogan des manifestants. Gaït Salah, le chef de l'armée, annonça une élection présidentielle le 4 juillet, mais les manifestants continuaient de rejeter les trois hommes, appelés les 3 B, chargés d'assurer le pouvoir et de préparer la transition politique. Pour imposer cette élection présidentielle, Gaït Salah, qui est devenu le nouvel homme fort du régime, s'est lancé dans une vaste opération main propre. Tel un Bonaparte, il s'est posé en sauveur et en protecteur du mouvement. Il s'est servi du mouvement populaire pour régler ses comptes et justifier l'arrestation de ses rivaux. Il comptait aussi, ainsi, asseoir sa position d'arbitre au sein de l'appareil d'État et réduire le mouvement populaire en se ralliant l'opinion populaire. Il a offert la tête de ceux que les manifestants conspuaient, généraux, ministres et grands patrons. Parmi eux, 3 hommes autrefois tout-puissants, Saïd Bouteflika, le frère du président, accusé d'avoir en coulisses dirigé le pays, 2 ex-généraux, Tartag et Médienne, dit Toufik, ex-patrons des services des renseignements. Donc, ces trois-là viennent décoper de 15 ans de prison. D'ailleurs, la même peine a été infligée à Louisa Hanoun, la secrétaire générale du Parti des travailleurs, à qui il est reproché d'avoir participé à une réunion avec Saïd Bouteflika et Médienne. La prison d'El Arash, à l'est d'Alger, est devenue une prison VIP qui accueille 2 ex-premiers ministres, Selal et Ouyahia, des ex-ministres, des grands patrons tels que Haddad, l'ex-patron des patrons, Tarkout, celui des roues, là, le patron de Hyundai, le PDG du groupe Sovac, c'est Volkswagen, le patron du groupe Condor et enfin Rebrab, le patron de Civital. Vu l'impunité dont ils ont tous bénéficié pendant des années, l'arrestation de ces dirigeants a évidemment réjoui l'opinion populaire. Et Gaït Salah a dû marquer des points auprès de toute une fraction de la population qui voyait là enfin des actes. Mais cela n'a pas été suffisant. Faute de candidats osant se présenter, vu que le mouvement populaire durait, Gaït Salah a dû renoncer à l'élection présidentielle du 4 juillet. Fin juin, à l'approche des vacances, alors que l'ampleur des manifestations semblait se réduire, Gaït Salah pensait donner un coup de grâce en utilisant l'arme de la division. il décréta l'interdiction du port du drapeau berbère dans les manifestations, donnant l'ordre d'arrêter tous les porteurs de ce drapeau. Mais cette manœuvre n'a pas eu l'effet escompté. Les braises du mouvement n'étaient pas du tout en train de s'éteindre. Vendredi 4 juillet, jour anniversaire de l'indépendance du pays, des marées humaines ont envahi les rues de toutes les villes du pays pour réclamer une seconde indépendance, qui ne pouvait se réduire à l'arrestation de quelques gros bonnets. Ce même mois de juillet, le mouvement populaire a été galvanisé par la Coupe d'Afrique des Nations. La liesse populaire qui s'est exprimée à chaque victoire de l'équipe nationale exprimait aussi la joie et la fierté d'être un peuple qui avait relevé la tête. Début septembre, Gaït Salah a frappé du poing sur la table. S'appuyant sur son opération Ma Propre, il affirmait avoir répondu aux exigences populaires et annonçait une élection présidentielle le 12 décembre. Il a placé un ex-ministre de Bouteflika à la tête de l'autorité indépendante chargée de superviser les élections, ce qui nourrit le sentiment que le système se protège pour que rien ne change. Depuis, décidé à en finir avec le mouvement, Gaït Salah intimide, menace et réprime. Des personnalités politiques connues ont été arrêtées, telles que Karim Tabou, dirigeant d'un parti qui s'appelle l'UDS. Il a été arrêté pour entreprise de démoralisation de l'armée. Des militants, des journalistes ont été arrêtés et même un jeune capitaine de la marine marchande pour avoir posté une vidéo sur YouTube où il dénonçait le monopole de la société émiratie dans la gestion des ports algériens. À chaque manifestation, des arrestations arbitraires ont lieu. Certains sont relâchés, d'autres sont incarcérés. Rien qu'à la prison d'El Arach à Alger, une centaine de personnes seraient en détention pour attroupement sans autorisation ou atteinte à l'intégrité du territoire. Comme le disait une manifestante, vous pouvez tous nous arrêter. En effet, bien que des manifestations aient lieu chaque vendredi et chaque mardi à Alger, la loi qui interdit d'y manifester n'a toujours pas été levée. Loi promulguée d'ailleurs par Ali Benflis, ex-premier ministre de Bouteflika, candidat à l'élection présidentielle du 12 décembre et qui avait été éjecté des manifestations en mars. Manifester, circuler, se réunir, s'exprimer librement n'est toujours pas acquis. Le vendredi, l'accès à la capitale est rendu difficile par la suppression totale des trains de banlieue et par les barrages de gendarmerie qui refoulent les voitures de manifestants venus d'autres villes. Pour imposer la tenue de l'élection présidentielle et pour justifier ces arrestations auprès de la population, Gaït Salah n'a pas hésité à affirmer que ces manifestants agissaient pour le compte de la bande, c'est-à-dire les voleurs. Et maintenant, il a dit ça il y a 2 jours, que c'est grâce à l'argent sale que les manifestations grossissent. Malgré ces restrictions, le mouvement se poursuit. La détermination et l'ampleur des dernières manifestations montrent que pour l'instant, les menaces de répression ne fonctionnent pas. Le mouvement populaire défie Gaït Salah. Car les espoirs de changement qui s'expriment depuis février sont loin d'être satisfaits. Rien n'a changé dans le quotidien des travailleurs et des classes populaires. Avec la crise qui s'aggrave, le chômage et l'inflation sont repartis de plus belle. Les comptes des entreprises dont les patrons ont été arrêtés ont été gelés, mettant un certain nombre d'entre elles à l'arrêt. Et des centaines de PME qui en dépendent sont en faillite. La décision du gouvernement de limiter les importations met des entreprises en difficulté. Elles ne peuvent plus importer de pièces détachées, de matières premières. L'emploi de dizaines de milliers de travailleurs est menacé. Dans de nombreuses entreprises publiques, des travailleurs sont en grève parce qu'ils n'ont pas été payés depuis des mois. Des émeutes pour l'accès au logement, pour l'emploi, l'accès au gaz se sont multipliées. En cette rentrée, 2 nouvelles lois celle sur les hydrocarbures et celle de la loi de finances ont donné une nouvelle tournure à la contestation. Une nouvelle loi sur les hydrocarbures, qui fait de la part belle aux grandes compagnies pétrolières internationales, a été dénoncée lors des manifestations du vendredi 11 octobre. Deux jours plus tard, dimanche 13 octobre, répondant à un appel sur les réseaux sociaux, des milliers de personnes se sont rassemblées devant l'Assemblée nationale populaire, forçant les barrages de police pour crier « L'Algérie n'est pas à vendre ! Le peuple veut la chute du Parlement ! Il refuse que ce gouvernement adopte des lois qui privent le pays de ses richesses !» Ce pouvoir fait d'un côté des cadeaux aux compagnies pétrolières internationales et de l'autre une loi de finances qui aggrave l'austérité. Il programme de multiples taxes destinées à réduire le déficit budgétaire. À l'augmentation de la TVA s'ajoute celle sur les produits importés, qui concerne une grande partie des produits consommés et qui seront désormais inaccessibles. Une taxe sur le tabac, les produits électroménagers et l'instauration d'une vignette automobile. Les manifestants n'acceptent pas ces lois d'un gouvernement qu'ils rejettent et qu'ils considèrent comme illégitimes. Gaïd Salah invoque le vide constitutionnel pour imposer son élection présidentielle. Mais on voit qu'il n'y a pas de vide de pouvoir. Le pouvoir est là et il n'attend pas l'élection présidentielle de décembre pour gérer les affaires de la bourgeoisie algérienne et répondre aux attentes des pays impérialistes. Il n'attend pas non plus pour s'attaquer aux classes populaires. Après 8 mois, on ignore quel sera l'avenir de ce mouvement. C'est un énorme mouvement populaire qui a mis en branle des millions de gens et qui a résisté à bien des manœuvres. Cette révolte a du souffle, car elle est portée par une jeunesse nombreuse, dynamique, qui a su communiquer son enthousiasme et donner vie à un mouvement solidaire et fraternel. Cette jeunesse qui avait le sentiment d'être un fardeau dans une société qui lui faisait peu de place, a su gagner le respect des plus anciens et leur redonner de la dignité. Cette dignité retrouvée après toutes les humiliations subies, après tous les traumatismes de la décennie noire, leur a redonné confiance. C'est aussi un des moteurs de la contestation. Le mouvement populaire a mis à terme à des années de résignation et les masses algériennes ne veulent pas se faire avoir par un simulacre de démocratie. Toutes les couches de la société sont descendues dans la rue et ont exprimé des aspirations démocratiques qui ont un contenu bien différent selon qu'on est un homme ou une femme, selon qu'on est un avocat ou un journaliste ou un petit patron, un médecin, un chômeur ou un travailleur. Ainsi, les magistrats qui manifestaient au mois de mars pour réclamer un état de droit obéissent aujourd'hui aux ordres des Gaïd Salah et envoient les manifestants en prison. Le journal Le Monde, qui a rendu compte de la manifestation contre la loi sur les hydrocarbures, rapporte les paroles d'une chef d'entreprise très en colère et qui dit avoir souffert dans son activité des restrictions d'importation instaurées par les autorités. Mais pour les travailleurs et les classes populaires, ces aspirations démocratiques signifient ne plus être écrasées et méprisées, pouvoir s'exprimer librement, avoir des droits, pouvoir nourrir sa famille, se soigner, avoir un logement et vivre dignement. Toutes ces aspirations, plus ou moins formulées, variables selon les catégories sociales, sont résumées dans l'expression « on veut une seconde indépendance ». 57 ans après la guerre d'indépendance, la victoire contre l'ancienne puissance coloniale représente encore une fierté. Pour les classes populaires, cette indépendance aurait dû servir à tout cela et non à porter des officiers au pouvoir. Depuis le début, le mouvement est allé de rejet en rejet. Rejet du 5e mandat, puis rejet de sa prolongation, puis rejet des 3B, puis rejet de l'élection présidentielle du 4 juillet, et aujourd'hui, rejet de celle du 12 décembre. Pour autant, cette révolte n'a ni une vraie direction, ni des objectifs politiques précis. Divers regroupements se sont constitués, affirmant vouloir être une alternative. Aucun d'entre eux n'est reconnu par le mouvement et ne peut prétendre parler en son nom. Parmi ces regroupements, il y a la dynamique de la société civile, qui regroupe des personnalités et des partis et des associations. Il y a également le Front du Changement autour de Ali Benflis, ou encore les forces de l'alternative démocratique qui regroupe la Ligue des droits de l'homme, trois syndicats d'éducation, des partis qui sont sur le terrain de la laïcité et de la démocratie, comme le RCD, le Parti des travailleurs, le Parti socialiste des travailleurs ou l'ex-PACS. L'avocat Bouchachi, qui a une certaine popularité en Algérie, vient d'annoncer un autre regroupement pour trouver une issue à la crise politique. Aucun de ces regroupements n'a pour l'instant réussi à apparaître comme une direction. Et s'ils sont en concurrence les uns avec les autres, les solutions qu'ils préconisent préservent les intérêts de la bourgeoisie algérienne et ne se préoccupent pas des intérêts des classes populaires. En 1988, suite à la révolte et l'ouverture politique, le Front islamique du Salut, le FIS, qui apparaissait comme une force politique nouvelle, avait pu capter à son profit les fruits de la révolte populaire. 30 ans plus tard, même si la religiosité est importante, le mouvement n'a pas poussé dans leur sens, dans le sens des partis islamistes. Après avoir envisagé de soutenir Ali Benflis, un ex-premier ministre, le 12 décembre, la plupart de ceux-ci, des partis islamistes, ont annoncé qu'ils y renonçaient et qu'ils ne se présenteraient pas. Le mouvement Badissia Novembria, qui se revendique du mouvement religieux des oulémas, cherche à apparaître, mais à ce jour, son succès est resté limité. Jusqu'à présent, c'est Gaïd Salah, le chef de l'armée, qui a profité de cette crise politique. Il semble avoir le soutien d'une fraction de la population qui est satisfaite que le clan Bouteflika ne soit plus aux affaires et souhaite un retour à la normale. Mais à son tour, il est devenu la cible principale de ce mouvement qu'il n'a pas réussi à éteindre. Quant à l'armée, pour l'instant, elle n'a pas fait le choix d'une répression à la soudanaise. Mais c'est évidemment une menace qu'on ne peut pas exclure. Rappelez-vous qu'une demi-révolution est un suicide complet. Ne laissez pas l'armée confisquer les fruits de votre combat, a écrit un militant égyptien des droits de l'homme commentant les événements du Soudan. Comment éviter un scénario à l'égyptienne? Comment trouver la voie pour permettre aux masses algériennes de satisfaire leurs aspirations? Le peuple algérien, comme dans tous les pays pauvres de la planète, subit une oppression de la part d'un système qui n'est qu'un rouage de l'impérialisme. La satisfaction de ses aspirations ne sera possible que si une véritable révolution remet en cause cette domination impérialiste, une révolution qui aura besoin de la solidarité des autres pays de la région. Et c'est possible. C'est possible car les peuples de ces pays subissent la même oppression. Les peuples du Maghreb et du monde arabe, bien sûr. Ils partagent les mêmes aspirations. Et partout, la situation est explosive. En 1962, la solution nationaliste du FLN, l'indépendance nationale, n'a finalement pas mis un terme à l'oppression. Elle ne le pouvait pas. Quant à la solution islamiste prônée par le FIS, suivie des groupes terroristes islamistes, entre parenthèses, l'ancêtre des djihadistes actuels, des années 90, elle a débouché sur une tragédie. En 2011, la démocratie sur le modèle parlementaire a été présentée comme étant la solution aux peuples arabes, qui voulaient en finir avec la dictature politique et l'oppression sociale. 8 ans plus tard, il se retrouve dans l'impasse. Les interventions impérialistes ou celles de leurs alliés ont plongé la Libye, le Yémen et la Syrie dans le chaos. En Égypte, la dictature de Sisi, soutenue par les États-Unis et l'Arabie saoudite, n'a rien à envier à celle de Moubarak. En Tunisie, la transition démocratique, présentée comme modèle, s'accommode d'une dictature économique qui laisse des millions de gens dans la misère. La solution ne peut venir que de la classe ouvrière. En Algérie, les 10 millions d'ouvriers, employés, ingénieurs, dans le public et le privé, présents dans toutes les villes du pays, représentent une force potentielle considérable. La classe ouvrière algérienne est la seule classe qui peut offrir une perspective à l'ensemble des classes populaires. Il faut qu'elle trouve les moyens de se renforcer, de s'organiser et de représenter une alternative au pouvoir politique et à l'appareil d'État en place. Elle est en effet la seule classe qui n'a à perdre que ses chaînes, qui n'a rien à défendre dans le système et qui peut donc mener jusqu'au bout la lutte contre l'exploitation capitaliste et le système de domination impérialiste. Nous ne connaissons pas l'avenir de ce mouvement et nous n'avons pas la prétention de dire d'ici comment y intervenir. Mais nous pouvons essayer de comprendre ces possibles évolutions à la lumière des expériences des luttes passées de la classe ouvrière. Les problèmes auxquels sont confrontés les travailleurs en Algérie sont ceux auxquels ont été confrontés les travailleurs dans le passé, durant la Commune de Paris ou la Révolution russe de 1917. Durant ces périodes, on a vu la classe ouvrière surgir comme une force distincte, s'organiser dans des comités, dans des soviets. Cette forme d'organisation a été un levier formidable pour aller vers la prise du pouvoir, même si elle n'a rien de magique. En effet, en 1919, en Allemagne, les conseils ouvriers dirigés par des sociaux-démocrates bourgeois ont trahi la révolution. En Russie, c'est la présence du parti bolchévique au sein des soviets qui a permis à la classe ouvrière de passer du rejet du tsarisme, puis du rejet du gouvernement provisoire, à la prise de conscience de ses propres objectifs. La conscience que pour obtenir le pain, la terre, la paix, elle ne pouvait compter que sur elle-même et s'emparer du pouvoir. Spontanément, dès février 1917, la classe ouvrière russe avait été capable de s'armer. Armée, organisée, au sein des soviets et guidée par le parti bolchévique, elle a été capable de faire échec au coup d'État militaire de Kornilov. Car quand l'ordre social est menacé, il y a toujours l'ombre d'un général Kornilov qui plane. En avoir conscience, se préparer à cette éventualité et avoir la capacité de s'armer serait une nécessité pour les masses algériennes si elles veulent éviter un scénario à l'égyptienne. Jusqu'à présent, la classe ouvrière algérienne participe au mouvement sans pour autant avoir acquis une conscience de sa force et de ses intérêts en tant que classe distincte. Elle n'est pas apparue comme une force organisée. On ne peut que le constater. Et on ne peut pas exclure non plus qu'elle finisse par le faire dans le cours des événements. La classe ouvrière algérienne, pour faire face à ses tâches, a besoin de s'approprier les traditions, l'expérience des mouvements ouvriers révolutionnaires du passé. Ces traditions ne lui ont pas été transmises, et ce n'est pas elle qui en est responsable. C'est toute une riche expérience qui ne lui est pas parvenue. Ce que les travailleurs algériens ont reçu en héritage du mouvement ouvrier est venu tout au plus des partis communistes français et algériens, c'est-à-dire de partis staliniens qui avaient abandonné les idées de lutte de classe. Toute une génération de travailleurs n'a rien trouvé d'autre comme perspective politique que celle offerte par les nationalistes. Alors, nous souhaitons, nous espérons que la mobilisation actuelle amène la classe ouvrière à renouer avec les traditions du mouvement ouvrier révolutionnaire. Et pour commencer, nous souhaitons qu'elle fasse naître en son sein des militants qui sachent renouer avec le communisme révolutionnaire.